Il devrait retrouver ses parents dans très peu de temps à l'abri dans une base militaire.
Everything went to plan and actually to time, which is even more unusual in the Middle East.
فهم منزعجون مما يعتبرونه ثمنا باهظا لكن الثمن.
Voir sur ces images en direct, on attend d'un instant à l'autre le discours.
Un peu plus d'un an après les attentats qui ont ensanglanté Madrid, l'Europe a été prise pour cible une deuxième fois par les terroristes.
Faire fiction sur les ondes, écrire aux marges de l'info, c'est en nouvellement du monde. Enjoliver sources et sondes, ennouveler les quotidiens, c'est en nouvellement du monde. Écrire des nouvelles sur des news, actu trouble et pensées profondes, c'est en nouvellement du monde. Imaginer des scoops volants au pays des canards enchantés, c'est en nouvellement du monde.
En Nouvellement du Monde est un exercice d'écriture radiophonique hebdomadaire qui respecte une contrainte d'écriture simple, inventer et lire des nouvelles qui s'inspirent d'un entretien mené à partir d'articles de presse. Soit l'article suivant, écrit par Claude Burgelin, publié dans le numéro 344 du mensuel La Recherche le 1er juillet 2001, intitulé « Comment la littérature réinvente la mémoire ».
Par définition, l'écriture est mémoire, conservation de traces, défi de la mort. Depuis 2 ou 3 décennies, de nombreux textes, souvent parmi les plus achevés, ont été écrits par des auteurs qui tournaient la tête vers la gauche, vers le passé. Mais la plupart de ces écrivains ne se sont pas contentés de faire œuvre de mémorialiste, au sens traditionnel du mot. Puisque la mémoire en son plus intime est liée au langage, aux images liées à des mots, ils ont été ainsi amenés à interroger le fonctionnement même de la mémoire, ses limites et ses pouvoirs, sa capacité à transformer ou à structurer, et même ses aptitudes créatrices. La littérature a eu ici une fonction heuristique. Elle a permis d'élargir le champ de la mémoire, d'en ouvrir les frontières et presque de renouveler le sens même du mot.
Cet article a inspiré à Emmanuel Favier la nouvelle Zone d'ombre. Cette nouvelle, lue par Victorien Robert, a été publiée chez Luce Vilquin dans un recueil intitulé « Confession des genres ».
Zone d'ombre. Scotomisation. Nom féminin, du grec scotos, sombre, obscur. Mécanisme de défense psychologique qui consiste en la négation sélective par le sujet atteint de faits réels mais intolérables car traumatisants. Sans doute, en effet, quelque chose de vaguement familier se dégageait de sa silhouette anguleuse. Mais ce que je vis, d'abord, ce furent les yeux. De très beaux yeux donnant à son faciès, plutôt ordinaire malgré le noir brutal des cheveux, un plaisant bleuté. Une lumière, en somme. Outre que cet éclat venait distraire l'ennui de la conférence sur l'accompagnement médico-social des patients atteints de troubles neurocognitifs, et j'ai senti qu'il m'appelait vers la femme dont il émanait. Le moyen de résister. Elle répondit à mon sourire avec, colorant différemment l'iris, quelque chose comme de la gratitude ou du soulagement. Cette teinte violacée, qui nuançait un bleu déjà violent, m'étonna et, sans doute, acheva de faire ma conquête. Lors de la pause qui coupait la matinée de conférence en 2 longues plages fastidieuses, je m'approchai d'elle et lui proposai un café. Elle accepta d'un signe de tête et me suivit. Aucun mot ne fut échangé jusqu'au moment où, accoudé au bar du lobby, nos cafés servis, je lui tendis la main en prononçant mon nom. Aussitôt, l'éclat bleu vira au gris. Et les traits de son visage, d'anecdotiques qu'ils étaient, devinrent durs, presque coupants. Elle quitta le comptoir et le hall sans un mot, et je ne la revis plus de tout le séminaire. Quoique intrigué, j'oubliais bientôt cet épisode et me replongeais dans mes recherches. J'avais à cette époque en préparation un ouvrage sur certains troubles particuliers de la mémoire, et travaillais énormément. Je satisfaisais ma sensualité, que j'avais alors exigeante, avec des rencontres de passage, amour sporadique que je m'empressais d'oublier avec le lever du soleil. Ce ne fut que quelques mois après que, au cours d'un voyage à Toronto, dans le cadre du Congrès international de neurosciences, l'épisode de la jeune femme aux yeux bleus me revint en mémoire. Au second jour du congrès, tandis que je déposais sur les barres horizontales et métalliques mon plateau, alors seulement garni de couverts et d'un petit pain, ma main, approchant une coupelle de carottes râpées, effleura un poignet chargé de bracelets. J'omis de m'intéresser à la sensation de déjà-vu que suscitait ce cliquetis agaçant, pour remonter le long du bras jusqu'au visage, sourire et yeux bruns encadrés d'un blond factice mais excitant, d'une très jolie femme. « Vas-y, » me dit-elle. Un peu étonné par ce tutoiement, que j'attribuais aussitôt aux origines québécoises trahies par son accent, je remerciais et insistais en bredouillant pour qu'elle se serve la première. Devant les plats de résistance, tandis que j'hésitais entre les frites et les pommes de terre rissolées, elle me demanda si j'avais pu me reposer un peu. Une nuance vaguement lutine modulait sa voix. « Oui, oui, merci, » répondis-je mécaniquement, de plus en plus stupéfait devant sa familiarité. Nous poursuivîmes sans un mot notre exploration de la gastronomie canadienne. Au terme d'une interminable et muette déambulation au long d'une vitre dont la transparence blafarde semblait dénier au plat qu'elle abritait toute réalité substantielle, la blonde saisit une pomme, colla ses lèvres sur ma joue, ayant soin de déborder sur la commissure de mes lèvres, et s'enfuit rejoindre quelques collègues au fond du restaurant. Je déjeunais seul à seul, avec ma surprise. Quelques heures plus tard, je la recroisais dans le couloir tandis que je sortais, en compagnie d'un collègue, d'un fastidieux compte-rendu sur les traitements possibles des patients souffrant de troubles mnésiques. Je la saluai, présentai mon collègue et, la désignant d'une main interrogatrice, je l'engageai à nous révéler son nom. Le même changement brutal qu'avec la jeune femme aux yeux bleus intervint dans sa physionomie, l'analogie me frappant immédiatement. « Mon gros tabarnak, si j'avais su, jamais j'aurais couché avec toi !» m'asséna-t-elle avant de s'éloigner dans un cliquetis de bracelets ostensiblement agressif. Je crus d'abord à une plaisanterie de mauvais goût, voire à un coup monté. La vengeance d'un confrère envieux pour me discréditer aux yeux de l'éminent collègue, lequel me fixait à cet instant précis avec un mélange d'ironie et de mépris derrière ses lunettes. J'espérais alors de lui qu'il me soutiendrait dans la demande d'une bourse, indispensable pour mener à bien la suite de mes recherches. Et ce fâcheux incident n'allait pas plaider en ma faveur. En toute bonne foi, je n'avais pas la moindre idée de quelle pouvait être l'identité de cette femme. Je tentais de le démontrer à mon collègue, qui me fit comprendre que mes justifications l'indifféraient, et me donna rapidement son congé. Mais ce fut seulement quelques mois plus tard que je pris conscience du mal qui m'affectait et que les choses commencèrent à sérieusement se dégrader. Un soir, je me rendis à une réception en l'honneur de mon ancien directeur de thèse, dont on célébrait les méritats. L'ambiance était raisonnablement gaie, le champagne excellent et la compagnie comptait ce qu'il y avait de plus renommé dans le domaine des neurosciences. Se trouvaient là réunis tous mes amis et collègues, lesquels d'ailleurs se confondaient, puisque tout mon univers social se résumait alors au milieu dans lequel je travaillais. J'aperçus un groupe de personnes de ma connaissance et me dirigeai vers elles. Parmi ses confrères de longue date, une femme inconnue, plutôt belle, animait la conversation. Je me présentai aussitôt à elle, charmé déjà. Je n'avais pas achevé mon geste de tendre la main vers elle, mon nom effleurait encore mes lèvres, que son visage subissait une métamorphose identique à celle que j'avais déjà pu observer à deux reprises, sur la femme aux yeux bleus et sur la blonde au bracelet. Un éclair mouillé passa dans ses yeux, ses pommettes rougirent, et elle quitta le groupe en s'excusant sommairement. Sans comprendre, je regardais mes amis qui me considéraient d'une prunelle navrée. J'ai dit quelque chose ? Mais bon sang, tu l'as pas reconnue ou quoi ? Parce que je suis supposé la connaître ? Enfin voyons, vous avez vécu ensemble plus de 2 ans. Tu te moques de nous ? Là encore, je crus à un complot. Le milieu médical est tissé d'enjeux de pouvoir, et ma carrière avait de quoi susciter des jalousies. Mais au vu de la sincère désolation avec laquelle mes collègues m'observaient, je commençais de m'inquiéter sérieusement. Celui chez qui avait lieu la réception m'entraîna à l'étage, coupant court à mes protestations d'innocence. Il me montra alors, dans un album de photographies, plusieurs clichés, où j'apparaissais en compagnie de la femme que je venais, bien malgré moi, d'humilier avec tant de brutalité. Il s'agissait sans nul doute de nous sur ces images, avec certes quelques années de moins, et nous étions visiblement très intimes. Abasourdi, je quittai la soirée en prétextant un malaise et m'enfermai chez moi. Je m'interrogeai alors sur cette posture que j'entretenais depuis mon entrée dans l'âge d'homme, celle d'un refus volontaire de toute nostalgie et de tout recours au symbolique. Refus dont la conséquence était que je n'avais chez moi nulle photographie, nul objet qui puisse désigner, par son existence, la permanence du souvenir. Pour éviter de me confronter au sens, j'éliminai le signe. Afin de mieux nier le contenu, je pulvérisai le contenant. Les seuls objets qui comblaient le vide de mon appartement étaient absolument utilitaires. J'évacuai systématiquement de mon environnement tout ce qui n'avait pas une valeur fondamentalement actuelle, tout ce qui n'était pas intimement relié à la nécessité du présent. La rémanence d'un événement dans la rétine de mon esprit me rendait malade. Subitement, ce soir-là, je me penchai sur mon passé pour la première fois depuis des années. Je m'y plongeai, pour découvrir qu'il n'avait aucune réalité pour moi, qu'il n'était qu'une masse floue d'où émergeaient des visions de moi-même, travaillant sans relâche, courbé sur un article scientifique ou manipulant des analyses dans la salle blanche de mon laboratoire, prononçant une conférence ou effectuant des tests sur des patients. L'obscurcissement de ma mémoire semblait essentiellement toucher ma vie affective, dont ne subsistait nulle trace, pas le moindre visage, pas le moindre prénom. Pourtant, je savais avec certitude avoir vécu avec des femmes. Je savais avoir aimé. Je savais que régulièrement, très souvent même, peut-être chaque nuit, je faisais l'amour avec quelqu'un. Mais c'était comme s'il me devenait impossible, dès lors que l'acte sensuel avait été consommé, d'en conserver la moindre trace dans ma mémoire. Je ne dormis pas de la nuit et me rendis le lendemain matin au laboratoire dans un état second. Chaque femme que je croisais suscitait en moi l'inquiétude d'avoir eu avec elle des rapports plus intimes que je ne le soupçonnais. De plus en plus proche de la panique, je peinais à me concentrer sur mon travail et commis plusieurs impairs, qui me valurent les regards réprobateurs de mes collaborateurs. De ce jour, ma situation professionnelle ne fit qu'empirer. La bourse me fut refusée. Le collègue qui avait assisté à la scène de la femme au bracelet ayant stigmatisé mon immaturité et mon manque de sincérité émotionnelle. Mes collègues, dont je découvrais ainsi qu'ils n'étaient rien de plus que des collègues, se mirent à me battre froid. Ils se montraient irréductiblement choqués par l'offense faite à cette pauvre femme, qui aurait été ma compagne et dont je ne gardais aucun souvenir. Incapable de canaliser mes pensées, je délaissai mes recherches et passai mes journées chez moi, échouant à ouvrir un livre ou à écrire quoi que ce soit. Je restais des heures à ne rien faire, sinon triturer l'absence, ranger des objets inexistants, classer des anecdotes disparues. La nuit venue, je sortais dans le but unique de coucher avec une femme. Je n'avais pas tardé à élaborer un système pour contrer ma pathologie. En effet, Profitant de ce que ma furtive partenaire s'était éclipsée aux toilettes, je notai sur un petit carnet son prénom, le bar dans lequel je l'avais rencontré, ainsi que quelques détails de sa physionomie, constituant ainsi un registre que je consultais avant chaque sortie, afin de m'assurer que je ne coucherais pas deux fois avec la même femme. Une nuit, ayant bu plus que d'accoutumé, saisi alors d'un excès d'apitoiement sur moi-même, je m'épanchai auprès de l'une d'elles. Je lui expliquai comment cette amnésie sélective avait peu à peu transformé ma vie, en m'éloignant de tout ce qui, jusque-lors, en avait constitué le fondement. Devant sa bienveillance, je me laissai même aller à lui exposer par le menu la stratégie que j'avais mise au point, et lui montrai mon registre, qu'elle examina avec une curiosité gourmande. Elle se montra pleine de compassion et, après son départ, je me sentais tout juste un peu moins seul. Je me sentais tout juste un peu moins seul. Ma vie se déroulait ainsi, de plus en plus abstraite, presque routinière dans son absence de temporalité. La place du souvenir amoureux, que j'avais pendant des années cherché à rendre la plus ténue possible, en éliminant tout ce qu'il pouvait engendrer de concret, ces icônes auxquelles je me refusais à rendre un culte, telles que les photographies ou les objets achetés ensemble, cette place se réduisait désormais à presque rien dans mon esprit gagné par l'obscurité. Je percevais mon existence psychique comme rien de plus qu'un squelette, allant sans cesse en s'amincissant, et dont les articulations étaient faites de la matière impalpable de l'oubli. Ma seule réalité tangible tenait à ces quelques informations notées sur un carnet, ces indices lapidaires d'un emploi du temps pétri de silence et de vide. Malgré tout, je parvenais à une forme d'équilibre dans cette vacuité. Comme hébété, je traversais les plaisirs charnels en les sachant amputés de ce qui leur donne leur saveur. La remembrance. Mais le mécanisme devait, c'était inévitable, connaître l'accident. En dépit de toutes mes précautions, une de ces femmes d'une nuit qu'il m'arrivait de plus en plus souvent, presque quotidiennement, de mettre dans mon lit, m'a pris soudain après l'amour, que nous avions déjà couché ensemble la veille. Ce qui me surprit fut moins le fait d'avoir été pris en défaut dans mon système, qui, tout rodé qu'il devenait, n'en était pas infaillible pour autant, que le calme avec lequel elle me l'annonça. Elle évita, avec une grande sagesse, de me faire le moindre reproche, masquant avec art toute trace éventuelle de l'humiliation qui pouvait l'étreindre. Nul durcissement visible des traits, nulle extinction du regard n'avait eu lieu au moment où elle avait dû comprendre que je ne la reconnaissais pas. Elle quitta mon domicile en m'embrassant sur le front, et ma solitude fut moins épaisse durant les heures qui suivirent. À quelque temps de là, alors que je reprenais mon souffle après un orgasme particulièrement lumineux, la femme qui se trouvait à mes côtés m'assura, avec un détachement des plus convaincants, que cela faisait un mois tout juste que nous nous fréquentions. Un vertige s'empara de moi, car je la crus immédiatement. Arrivé ce que j'étais parvenu à éviter, en garantissant le caractère unique de mes aventures sexuelles. La nécessité d'affronter l'obscurcissement auquel j'étais, semble-t-il, condamné. D'accepter la négation de mes expériences sentimentales et sexuelles, négation contre laquelle je n'avais aucun recours puisque j'en étais moi-même, par un mécanisme pervers, le moteur conscient dès l'origine. J'étais trop bien placé, étant donné le domaine d'études auquel j'avais consacré ma carrière, pour savoir qu'aucun traitement, aucune chimie ou analyse ne pouvait venir éclairer quelque peu ces ténèbres partielles du souvenir. Cette pensée intolérable me fit me lever brusquement pour attraper mon registre. J'étais saisi du brusque espoir que la jeune femme ne pourrait pas justifier son allégation, que les notes dans leur évidence physique viendraient s'opposer tout naturellement à la folie de mon imagination, laquelle me commandait, soulevant en moi des vagues de détresse, de croire absolument à ce que je venais d'entendre. Lorsque je voulus lui expliquer la teneur du registre, elle me coupa d'un « je sais » définitif, et s'empara du livre qu'elle ouvrit aux dernières pages renseignées. Elle me montra la date du 21 août, nous étions le 21 septembre, où figuraient les indications suivantes. Ariel, café de la plage, brune, cheveux mi-longs, mince, et dit « c'est moi ». Je lorgnais sceptique sur la rouquine plutôt en chair qui me faisait face et avait prétendu quelques heures auparavant se prénommer Gwenaëlle. Elle fit un bref sourire, puis désigna une vingtaine de noms sur la liste qui déclinait mes activités sensuelles du mois écoulé. Elle ponctuait d'un « c'est moi », calme et assuré, chaque indication donnée par son doigt. Elle m'expliqua alors qu'elle avait, dès le lendemain de notre rencontre, durant laquelle je m'étais laissé aller à lui confier mon problème, ainsi que la solution que j'avais mise au point pour le pallier, décidé de tenter une expérience. Sa curiosité naturelle ainsi que son amour du jeu l'y avaient poussé. Et elle avait calmé ses scrupules en songeant qu'après tout, le cobaye qu'elle faisait ainsi de moi n'avait rien à y perdre. C'était peut-être même le contraire. Elle avait ainsi totalement modifié son apparence et m'avait suivi. Cela n'avait guère été difficile puisque, comme je lui l'avais expliqué, je ne sortais de chez moi que la noirceur venue, à heure fixe, pour me diriger vers un bar auparavant sélectionné avec soin. Elle s'était ensuite laissée aborder, délivrant un prénom différent de la veille. Après cette première mystification réussie, elle s'était prise au jeu et, elle rosit à cette précision, s'était aperçue que je lui plaisais et qu'elle avait envie de me revoir, ce qui contrariait ses habitudes de célibataire. Ma pathologie lui permettait de réconcilier des désirs dont, en temps normal, le caractère paradoxal l'aurait fait souffrir. Elle continua ainsi, pendant un mois, à changer de coiffure, de style vestimentaire et de prénom. Elle alla même jusqu'à prendre du poids, fascinée par la facilité avec laquelle elle pouvait modifier son apparence. Elle avait hésité à m'avouer ce soir-là de quelle manipulation elle s'était rendue coupable. La première fois que nous nous étions revus, elle avait laissé échapper que nous nous étions connus la veille, moitié par accident, moitié en manière de test, afin de voir dans quelle mesure ma mémoire était réellement perméable à toute sollicitation du souvenir. De fait, seul mon registre pouvait la trahir. Mes goûts en matière de courbe étant peu variés, elle avait constaté qu'il ne lui serait pas difficile de jouer les figurantes interchangeables de mes nuits. Ce qui l'avait le plus amusé, et flatté sans doute, fut de voir qu'infailliblement, lorsque je faisais d'un regard le tour du bar quelconque où elle prenait soin d'entrer aussitôt après moi, c'était vers elle que je tournais mes appétits. Elle en avait déduit au bout de quelque temps que, sans doute, à notre étrange manière, nous avions des affinités particulières et, comme objectivement désignés par cette situation inédite, ce qui l'avait décidé à me dire la vérité. Je me sentais curieusement calme. Bien que conscient de la gravité de mon cas, j'étais amoureux sans le savoir d'une femme que j'oubliais sitôt que j'avais couché avec elle, et de l'impossibilité apparente d'en réchapper, je savais que tout irait bien. Elle serait ma mémoire, la mémoire de notre amour. Ainsi, je passais plusieurs mois à retrouver chaque soir une femme différente, dont je savais qu'elle était la même, quoique aucun souvenir ne m'en restât jamais. Un matin, lavant mon visage encore froissé par la nuit, je fus frappé par, ornant le reflet de ma main droite, l'éclat d'un anneau. Je souris inexplicablement à mon image dans la glace.
C'était Zone d'ombre, une nouvelle lue par Victorien Robert, écrite par Emmanuel Favier, montée par Flora Gros.